Donc il y a les zélotes à une extrémité qui vont faire une lecture très politique, à l'autre extrémité, une lecture très spirituelle. Et entre... Oui.
Qui avait donné l'impression d'un monarchisme.
D'un
Un
monachisme.
monachisme, c'est quoi le
Un
monachisme?
monachisme. Monachisme, c'est un courant qu'on trouve dans toutes les
Le
religions.
monachisme, c'est les moines.
Les moines,
Ouais, c'est ça, c'est moins calme.
hein, de sortir du monde. De sortir du monde pour s'élever spirituellement. Hein. Se dégager de ce monde terrestre où il y a les passions, se dégager de nos passions. Donc ce monachisme-là, c'est un courant spirituel qu'on retrouve dans toutes les religions. Donc, y compris dans la religion juive, qui va donner donc. Ça va être Qumran, là, les monastères dans le désert au sud d'Israël, pour ceux qui ont été en Israël, et qui sera un courant très, très fort, hein, parce que, qui est très attractif. Il va y avoir, et donc, ça seront des communautés assez nombreuses, hein, très austères, accent sur la pureté, sur l'élévation de l'âme. Et alors, entre ceux-là et les zélotes, il va y avoir donc plutôt un courant porté par les sadducéens. Alors, les sadducéens, c'est plutôt les héritiers des prêtres, parce qu'il y a deux institutions, hein, il y avait la royauté et les prêtres. Or, les sadducéens sont les représentants du culte et de la religion. En gros, hein, d'une religion, des pratiques de la religion, je dirais, hein, des pratiques cultuelles. Des pratiques cultuelles. Et ces prêtres, c'était autrefois ceux qui faisaient les sacrifices. Hein, qui faisaient les sacrifices. Et comme il n'y a plus de temple, et ben, ils ont été mis un peu à l'écart, en fait, ces prêtres, puisqu'ils n'avaient plus. Bon, et ça va se rétablir avec le retour. Ils vont revenir à Jérusalem, le temple va être reconstruit, et ils vont revenir à une pratique sacrificielle, qui aura moins de poids déjà, parce que entre les Esséniens qui ont déjà introduit une notion beaucoup plus spirituelle, le sacrifice, déjà dans la religion de Zarathoustra, les sacrifices animaux, sont condamnés ou pas encouragés. Déjà. Hein? C'est les premières civilisations qui vont mettre un bémol sur ces pratiques sacrificielles. Et donc là, il y a ce courant sadducéen qui va avoir une tendance à faire des compromis avec le pouvoir en place. Hein? C'est une institution. Donc, en fait, ce peuple, en revenant à Jérusalem, va être dans un premier temps sous la coupe des Grecs, plutôt des Perses au départ, et puis après, ça va être les Grecs avec Alexandre III, qui va. Alexandre le Grand, merci. Et qui va envahir toute cette région-là. Hein, l'épopée d'Alexandre. Et Alexandre va autoriser. Le culte d'Israël. Il ne verra pas d'inconvénient. Simplement après, quand Alexandre meurt, il y a donc deux généraux qui prennent le pouvoir, ils se partagent l'empire, et ceux qui occupent Jérusalem vont vouloir imposer le culte de Zeus au temple. Et ça, c'est l'horreur par excellence, hein, puisque. Quand même, la religion juive s'est construite pendant ces retours à Jérusalem. Hein. Elle s'est étoffée sous l'action des pharisiens et ça devient une religion extrêmement solide. Hein, extrêmement solide. Donc, imposer de force le culte de Zeus, c'est l'horreur absolue. Donc, il va y avoir une révolte. Une révolte et ça va être les Asmonéens. Mais cette révolte va être. Si, ils vont avoir un certain succès pendant un certain temps, mais après, ça va être l'Empire romain qui va envahir. Alors là, nettoyer tout ça, hein, l'Empire romain, et du coup les Sadducéens, qui sont les prêtres, l'Empire romain va les autoriser à nouveau, bon, ils ne vont pas imposer le culte de, pas de Zeus, ou peut-être même, je ne sais plus, ils ont leur dieu, hein, les Romains, mais ils vont autoriser le culte de Yahvé à Jérusalem. Et donc, les Sadducéens vont faire partie de ces gens qui vont négocier, plus que négocier d'ailleurs, hein, et ils vont être des collaborateurs du pouvoir romain. Hein, collaborateurs, on pourrait presque dire des collabos, si c'était... La forme est trop péjorative par rapport à ce qu'on a, mais ça pourra être perçu par certains comme ça. Hein. Donc il y a une tranche de Sadducéens qui avaient beaucoup de pouvoir, parce que c'était eux qui avaient le temple. Hein. Et puis, ces Sadducéens étaient très en bisbille avec les pharisiens, qui, eux, avaient cette culture du texte, et qui se fondaient sur cette promesse d'une royauté descendante de David. Descendant de David. Or, Israël avait bien recréé une royauté avec cette dynastie asmonéenne, mais ils n'étaient pas descendants de David. Les pharisiens les regardaient un peu de haut parce qu'ils étaient la loi, la justice, ce n'était pas leur priorité absolue. C'était une institution plutôt, ils avaient. Hein. Une institution cherche à se pérenniser pour elle-même. Donc, il y avait des oppositions entre ces différents courants juifs. Donc, qu'est-ce que est devenu le peuple, la notion de peuple, à travers tout ça, hein? Vous voyez qu'elle est un peu éclatée. Hein? Un peu éclatée. Et cette promesse d'éternité, qu'est-ce qu'elle devient? Vous voyez le trouble et le questionnement. Et la recherche de toutes ces questions que ça va impliquer, hein, et qui implique toujours le peuple juif, hein, faut bien voir. Hein, le peuple juif est toujours dans cette recherche. Et c'est donc là-dessus qu'arrive Jésus. Alors, vous voyez que il me reste une demi-heure pour parler du Nouveau Testament.
Une question qui me travaille depuis tout à l'heure. Quand tu parles du culte,
oui.
Il y avait une pratique obligatoire?
Oui, alors il y avait une pratique alors, qui était fondée sur les sacrifices, oui. Et des fêtes.
C'est ça.
Ah, alors, et des fêtes, ces fêtes étaient le rappel essentiellement de la traversée, la sortie d'Égypte. C'était resté un moment fondateur. Et ce qu'on s'appelait la Pâque. La Pâque, c'était cette sortie d'Égypte, et ça donnait lieu à une très grande fête. Alors, il y avait deux très grandes fêtes. C'était la Pâque, la sortie d'Égypte, et la Pentecôte, qui était la loi. L'apparition sur le Sinaï, et le don de la loi.
Alors, on propose de s'arrêter 5 minutes et de reprendre encore pendant 1 heure.
Très bien.
Ça va très bien.
5 minutes, ça peut être un quart d'heure. Voilà. Est-ce que ça vous va si on mange dans
un comme ça,
on mange un peu tard.
J'avais juste une petite question. Tu parlais de la parole qui va recentrer. Et là, j'ai l'impression qu'avec les écrits qui vont exister à partir des scribes, etc.
Oui.
Donc, ces différents courants vont s'appuyer sur des écrits. Mm. Et du coup, c'est à nouveau dispersion, comme si
alors,
chacun va interpréter.
Il y a un travail d'interprétation, un très très gros travail d'interprétation de ces textes, qui va générer d'autres textes. Hein, et ce travail va s'opérer non pas chacun dans son coin. Hein, ce travail d'interprétation va se faire dans les synagogues. C'est-à-dire qu'on échange et on va voir comment ce texte résonne avec chacun de nous au fond de nous-mêmes. Hein? Et comment on le lit. Et finalement, les textes vont s'enrichir comme ça, par des séries d'interprétations et de lectures. Alors ça va donner, dans les évangiles sont une interprétation fondamentale de tous ces textes, tout ce qui est passé. Matthieu, l'évangile de Matthieu va faire sans arrêt référence à ces textes et va leur donner, et en faisant référence par rapport à l'histoire, aux événements. Il y a toujours ce texte, doit se référer aux événements. Aux événements passés, mais aux événements présents. Comment les événements passés sont figurent les événements présents. Il y a toujours cette double référence. Et par ce partage, ce travail, parce que c'est un travail, de lecture et d'interprétation, et ça aboutit ensemble à une création. C'est là où, si vous voulez, le peuple va d'une certaine façon être le créateur de lui-même par ses interprétations. Et c'est pas uniquement l'interprétation, c'est une intériorisation. Une intériorisation au sein de l'histoire. Toujours l'animation historique. C'est un peu bon.
Dans les 5 minutes, c'est bon.